le journal politique de Radio JM.
J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour le journal Le Politique Jean-Pierre Sérus. Bonjour.
Bonjour Elsa.
Merci d'être avec nous au micro de Radio JM en ce début du mois de mars. Je rappelle juste à nos auditeurs que vous êtes vice-président de la région en charge des transports et de la mobilité durable, bien sûr de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, on aura compris. Mais vous avez d'autres mandats puisque vous êtes également conseiller métropolitain dans la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Et puis je crois que c'est aussi votre grande fierté, maire d'une très jolie petite ville qui est la Rogue d'Anteron, qui est un des plus beaux festivals de piano que nous accueillons sur notre territoire, je tenais à le dire.
Merci de le préciser. Un très beau village.
Un village, une petite ville quand même. Vous avez vu, je n'ai pas dit village, hein, j'ai dit petite ville.
Mais moi, j'y tiens beaucoup, un village.
Avec vous, Jean-Pierre Sérus, nous allons bien sûr balayer un petit peu l'actualité. Vous êtes, je le précise, vous avez rejoint le parti présidentiel Renaissance. Hein, donc, c'est votre engagement politique aux côtés du président de la République. On va peut-être passer d'ailleurs, on commençait peut-être par des sujets plus nationaux, voire même internationaux. Je voudrais qu'on commence par parler par ce qui s'est passé à Marseille hier, puisque Marseille a accueilli le premier congrès de Jordan Bardella, candidat aux élections européennes pour le Rassemblement national. C'est à Marseille, avec à peu près les chiffres varient entre 5 000 et 7 000 personnes. Vous avez, vous, depuis la semaine dernière, une candidate officielle pour cette élection, Valérie, qui est une députée européenne sortante, Valérie Ayer, une jeune candidate hein, d'ailleurs, et qui connaît assez bien son sujet, je ne moins qu'on puisse dire. Je voudrais peut-être qu'on commence par parler de ces élections qui approchent. Première élection à se présenter à nous avant les suivantes qui auront lieu jusqu'au présidentiel. Quelle importance ont les élections européennes à vos yeux, Jean-Pierre Sérus ?
Importance essentielle. L'ensemble de l'actualité internationale nous montre que nous sommes dans un temps de gravité. Et cette décision que chacun des électeurs français et européens va prendre au mois de juin pour cette élection européenne est essentielle. Ici en France, le combat est lancé. Vous avez parlé de Bardella, la tête de liste, Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement national. Nous, la majorité présidentielle, nous avons une tête de liste, vous l'avez souligné, extrêmement compétente. Valérie Ayer est une candidate de très grande qualité et je mets évidemment mes convictions au service de cette candidature.
C'est bien au-delà d'un enjeu électif, ce sont aussi les sujets qui sont abordés aujourd'hui. Il y a quelques jours encore, le président de la République, Emmanuel Macron, a évoqué la possibilité, pourquoi pas, d'envoyer des hommes en Ukraine, parlant d'une façon générale, bien sûr, hein, non pas seulement pour la France, et que c'était une possibilité. Il y a eu un tollé, une levée de bouclier. Comment vous avez interprété ces paroles? On voit des sujets comme cela qui touchent toute l'Europe et on a l'impression d'avoir une certaine frilosité de nos alliés tout autour.
Écoutez, le président de la République, Emmanuel Macron, ne l'a pas, cette frilosité. Je ne l'ai pas, j'adhère complètement à la position du président Emmanuel Macron. Je pense qu'il faut se rappeler que le déni, que finalement une certaine bienveillance, voire une certaine soumission, ont marqué le XXe siècle sur les agresseurs, les despotes, les dictateurs qui se lancent dans des guerres personnelles, évidemment, auxquelles une partie de leur population adhère. C'est aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine avec la guerre personnelle de Poutine et de ses soutiens. Et je crois qu'il est du devoir du président de la République, et comme vous le soulignez, ça devrait être le devoir de l'ensemble des chefs de gouvernement et des chefs d'État de nos démocraties. L'Europe aujourd'hui est en guerre. Elle est en guerre à sa marge en Ukraine, mais on voit bien dans les déclarations de vendredi de Vladimir Poutine que c'est une guerre directe vis-à-vis de l'Europe. Il en est arrivé à la menace nucléaire aujourd'hui. Évidemment, tout ça est à prendre avec beaucoup de sérieux et beaucoup de recul. Mais pour ma part, je pense que c'est important d'être ici en France, dans une démocratie qui dit aucune hypothèse n'est à écarter. En tout cas, nous ne sommes ni naïfs. Nous ne sommes pas dans le déni, nous ne sommes sûrement pas dans la soumission.
Tout cela ne pouvant pas se faire sans l'aide des États-Unis, évidemment. Et donc tout cela aussi nous repositionne l'Europe, qui, même si elle veut imposer une façon de voir et une directive comme le voudrait le président Macron, on reste quand même très dépendant d'une Amérique qui, jusqu'à maintenant, fournit principalement l'Ukraine en armes.
Oui, mais l'Europe peut aussi, compte tenu de ce contexte, s'affirmer comme étant finalement plus solide sur ses bases. Nous avons à défendre la démocratie, Elle est attaquée en Ukraine. Ce n'est pas qu'en Ukraine qu'elle est attaquée. Elle est attaquée en Arménie, elle est attaquée en Israël. Et moi, je pense que la voix de la France, la voix de l'Europe, même si ce sont des sujets qui dépassent un peu mes mandats d'élu local et régional.
On n'est pas hermétique
mais,
à ces sujets.
Mais je crois qu'au-delà des compétences que nous avons à exercer dans le cadre de nos mandats, nous avons aussi à dire nos convictions et également à alimenter le débat. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut à la fois plaider pour finalement la qualité de vie dans nos territoires, mais également pour la gravité de la situation, ce qui va se passer pour les élections européennes, ce qui se passe aujourd'hui sur le plan international, c'est aussi le temps de la gravité.
Bien sûr, parce que ça va redonner.
Et je me sens très engagé.
Changer l'équilibre qui est jusqu'à maintenant au sein de l'Europe. Si, comme on l'entend souvent dans les sondages, une extrême droite européenne prenait le dessus, là tout l'équilibre serait totalement différent. Enfin, moi, je suis toujours assez fasciné par ces possibilités d'entrer en guerre et d'un autre côté sur d'autres fronts de demander un cessez-le-feu qui n'a pas de sens. Enfin, ça, c'est. Je fais rarement des remarques personnelles, mais en tout cas, c'est quelque chose que je trouve à dire, cette demande de cessez-le-feu qu'on entend si souvent du côté demander à Israël, alors qu'Israël se défend d'une attaque terroriste. On n'a jamais entendu de cessez-le-feu lorsque la guerre était contre les nazis.
Écoutez, moi, je suis sans ambiguïté. Le 7 octobre, c'est une attaque terroriste par un mouvement terroriste. Et aujourd'hui, évidemment, c'est à ceux qui ont été agressés de décider de la façon dont ils vont lutter contre le terrorisme.
Et de façon plus ou moins définitive, en tout cas, c'est ce qui se profile. Alors aujourd'hui, c'est un jour qui rentrera dans l'histoire, puisque à Versailles vont être réunis, va être réunis l'ensemble du Parlement, c'est-à-dire les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, pour un changement qui va être fait, un ajout qui va être fait dans la Constitution. Alors c'est quelque chose d'historique. Je crois qu'il y a eu 17, c'est la 17e fois qu'on se réunit pour amender, changer, modifier la Constitution. C'est assez historique. C'est aussi une façon, peut-être, pour le président, même s'il ne sera pas présent aujourd'hui, de laisser une trace dans l'histoire française. Qu'en pensez-vous, Jean-Pierre Sérus ?
Deux éclairages. D'abord, je suis extrêmement favorable à ce que, finalement, cette inclusion du droit à l'avortement figure dans la Constitution. Je rappelle que dès lors qu'il y a un nouvel article dans la Constitution, la République n'est pas toute la République sans cet article. Voilà, donc, titre des convictions, je trouve que c'est une journée à la fois importante et historique, et que la France soit la première des nations, premier pays à le faire, j'en suis personnellement très satisfait et très fier. Et puis je vois au-delà de ça aussi
la
capacité...
Ça dit quoi aussi de notre époque ? Qu'on soit obligé, en fin de compte, de faire entrer un droit qu'on semblait acquis dans la Constitution pour mieux le protéger.
On a vu ce qui se passe aux États-Unis. Je pense
dans
que
états,
sur des sujets fondamentaux, il s'agit là, encore une fois, du droit des femmes à disposer de leur corps. Je pense qu'il faut prendre toutes les garanties parce que la politique nationale, internationale étant ce qu'elle est, il vaut mieux que les choses qui aujourd'hui font consensus soient sécurisées au maximum. Mais c'est le deuxième éclairage que je voulais apporter. Effectivement, on est dans un consensus qui, pour ma part, est un signal fort. C'est vrai que la politique aujourd'hui est assez perturbée. Il y a beaucoup de sujets qui sont mis les uns après les autres. Puis on voit que sur un sujet fondamental, on a pris le temps. J'entendais ce matin des parlementaires du Sénat notamment qui disaient on a évolué, on a su aller vers un consensus. Je pense que l'État, le chef de l'État et le gouvernement ont pris leurs responsabilités puisque c'est un projet qui est un projet proposé par le gouvernement. Ça aurait été beaucoup
plus... Même si ça
plus...
n'était pas dans le programme du président de la République.
Exactement, mais je pense que on s'est donné collectivement les moyens d'arriver à un consensus sur un sujet qui est important. Donc aujourd'hui, je suis tout simplement doublement heureux. Je suis heureux que ça figure... attendons le vote. Mais
Normalement, le vote devrait pas faire de problème.
Je suis heureux de la perspective de voir figurer cela dans notre Constitution. Et puis je suis heureux qu'on soit arrivé à ce consensus collectif.
Avec le sceau déposé par le... Voilà. Le garde des Sceaux, justement, vendredi, c'est une cérémonie assez unique, hein, à laquelle on aimerait participer, évidemment. Juste une chose, est-ce que ça pourrait être un sujet porté par votre candidate Valérie Ayer aux élections européennes pour que l'Europe entière fasse de ce droit un droit véritablement marqué dans le marbre, le droit à l'avortement.
Je ne suis pas en position d'en décider. Je trouve en tout cas que c'est un sujet qu'il faut mettre en avant. Et en tout cas, il faut faire remarquer, puisque c'était... le début de votre question était sur finalement cette campagne des élections européennes. Bon, il faut bien avoir en tête qu'il y a des opposants à ce projet d'introduction du droit à l'avortement dans la Constitution, en particulier au sein du Rassemblement national. Nous allons voir quelle sera la nature des débats et des interventions cet après-midi, mais c'est essentiel que les électeurs aujourd'hui qui vont avoir à se prononcer au mois de juin pour les élections européennes et en tête la totalité des sujets. Parce que derrière ce populisme rampant qui aujourd'hui inonde finalement les images avec le candidat ou les candidats, puisque visiblement le Rassemblement national multiplie les candidats, on est dans des candidatures uniquement populistes. On dit ce que les gens ont envie d'entendre.
Comme à l'extrême gauche.
Enfin, là, je m'adresse à l'extrême droite. Je pourrais dire aussi à l'extrême gauche, il y a beaucoup de populisme et je le regrette. On verra vraisemblablement dans les élections européennes d'autres sujets qui montreront bien le clivage entre ceux qui avancent avec des processus démocratiques et puis ceux qui hurlent et qui font du populisme.
Mais vous voyez, Jean-Pierre Sérus, on voit la campagne s'annoncer. D'ailleurs, toutes les prises de parole de la candidate Valérie Hayer étaient son ennemi, c'est l'extrême droite. Il ne faut pas oublier, en tout cas je l'espère, et c'est simplement fait, que l'extrême gauche est tout aussi dangereuse et que le but est vraiment de lutter contre les extrêmes et ne pas oublier qu'il n'y a pas que l'extrême droite, il y a aussi l'extrême gauche contre lesquels il va falloir lutter et qui a aussi à l'Europe un certain poids et sort des fois des phrases et des sujets qui nous laissent sans voix.
C'est une évidence. Aujourd'hui, la France, je pense, je pèse mes mots, mais est en quelque sorte malade de ces extrêmes, malade de ces populismes. Vous avez raison, le républicain et démocrate que je suis est tout à fait attaché à les combattre l'un comme l'autre.
Absolument. Allez, on va revenir sur des sujets un petit peu plus locaux, ne serait-ce déjà parce qu'on a une transition qui se fait, puisque le président du Sénat est venu vendredi à Marseille. Voyez, on lâche pas trop le Parlement. Gérard Larcher était donc en préfecture des Bouches-du-Rhône ce vendredi. Vous l'avez bien évidemment rencontré. Quel est l'intérêt, pourquoi, si vous voulez, quand il vient en préfecture, quel est l'intérêt pour vous et de le rencontrer et de pouvoir échanger avec lui? Et est-ce qu'il avait un message particulier à passer ici sur notre territoire?
Alors, il avait plusieurs messages et je pense qu'il s'est largement exprimé. Moi, je vois deux intérêts. D'abord, un intérêt sur la forme. Le président Larcher est venu à la rencontre d'élus locaux. Je rappelle que le Sénat, c'est la chambre des élus de proximité. Et dans la forme, il a veillé à ce que, au-delà de son intervention, il y ait après un grand moment d'échange quasi personnel. Le président Larcher, fort de son expérience de maire et d'élu local, est pour moi un grand président du Sénat. Et il a accordé vraiment du temps. Si je prends mon exemple, j'ai pu discuter avec lui le temps qu'il a fallu d'un sujet qui m'est cher, qui est celui du logement social dans des petites communes dans lesquelles nous avons un taux de logement social qui est supérieur à ce qui nous est demandé. Je suis solidaire de mes collègues qui disent aujourd'hui c'est pas si facile que ça d'appliquer toute la loi de manière indépendante du contexte très local. Donc je comprends, et le président Larcher a d'ailleurs dit qu'il y avait une ouverture pour voir comment améliorer le dispositif là où c'est difficile, en l'adaptant.
D'accord.
J'ai demandé au président Larcher, il m'a d'ailleurs conseillé de lui adresser une note que je suis en train de rédiger, j'ai profité de ce week-end pour finalement parler de ce sujet, mais avec un autre angle. Moi, dans ma commune, la Roque-d'Anthéron, très connue pour le festival de piano, nous avons 32% de logements sociaux. Comme nous avons moins de 10 000, simplement 5 600 habitants exactement, nous n'avons pas accès à des dispositifs de politique de la ville, d'aide particulière pour accompagner les populations. Donc on voit bien ce qui se dessine. Peut-être voir comment s'organise le logement social sur des territoires un peu plus larges que simplement la commune. Et je lui ai dit, à condition évidemment que l'on prenne mieux en compte la situation des communes qui doivent financer finalement l'accompagnement de ces personnes qui souvent arrivent dans nos communes parce que c'est là qu'il y a du logement social et ne pas simplement se limiter aux grandes villes comme c'est le cas des politiques de la ville. Bon, voilà un exemple sur le fond et sur la forme où finalement cet échange avec le Parlement, avec les parlementaires du Sénat, me paraît en tout cas très utile.
Vous pouvez apporter des arguments bien notre expérience, concrets,
notre vision. C'est très concret.
C'est votre quotidien, là, absolument. C'est extrêmement important. Et comme vous venez de le dire, beaucoup de gens qui ont demandé des logements sociaux se retrouvent peut-être un peu plus éloignés de la ville où ils travaillent, etc. Ce qui en vient directement à parler du transport, de la mobilité.
Vous vois arriver.
Vous avez vu, voilà, directement. On va parler un petit peu de mobilité. Et c'était aussi vendredi dernier, il me semble que vous avez représenté Renaud Muselier auprès du préfet, du député Jean-Marc Zulessi pour la réunion régionale des lancements de 4 projets qui sont des projets de services express régionaux métropolitains qu'on appelle le CERM. Je voudrais que vous expliquiez à nos auditeurs, au-delà de l'acronyme, de quoi il s'agit et pourquoi ces projets sont extrêmement importants pour nos territoires, pour qu'ils puissent respirer et connaître enfin cette mobilité tant attendue.
En fait, ce sont en fait des projets très simples. C'est d'aller plus vite pour que tout ce qui est organisé en matière de transport, aussi bien par la région, avec les trains régionaux, les autocars régionaux, et par les autres autorités, ici à Marseille, la métropole, Aix-Marseille-Provence, tout ce qui est organisé soit plus facile à utiliser et mieux coordonné.
C'est ça.
Aujourd'hui, la loi d'organisation des déplacements et des transports, la loi d'orientation des mobilités, la loi LOM, a fixé un nouveau cadre où non seulement les compétences des uns et des autres sont réaffirmées, mais surtout, on se donne plus de moyens pour mieux travailler ensemble. Très concrètement, et je pense surtout aux 5 millions d'habitants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui, pour beaucoup, ont envie de laisser leur voiture qu'ils utilisent
mais
généralement tout seuls
et
évidemment enfourcher le train, l'autocar, le covoiturage, le vélo, etc., etc. Aujourd'hui, on voit bien que les choses progressent, mais il manque de la facilité d'usage. Il manque, par exemple, qu'avec un titre de transport, on puisse se passer de ce qui est régional à ce qui est métropolitain, qu'on puisse, avec son smartphone, avoir l'information de tous les moyens de transport et pas simplement de ceux de la région.
Oui, de ne pas avoir une appli pour chacun,
etc.
En fait,
donc générale. Voilà, il faut que dans les toutes prochaines années, au travers des CERM, nous allions vers cette facilité, en ne pas oubliant quand même quelque chose qui est essentiel, c'est qu'on a aussi à intervenir sur les infrastructures et sur les services. Si on veut ce qu'on appelle du report modal, que de plus en plus de nos concitoyens laissent la voiture et utilisent tous ces systèmes qui sont vertueux pour la qualité de vie, pour la transition écologique, etc., il faut aussi qu'il y ait plus d'infrastructures, plus en matière ferroviaire.
Entre chaque moyen de transport.
Et plus de liens et plus de services pour que tout ça fonctionne mieux.
Et ensemble,
voilà.
Bien sûr.
Donc c'est ce que nous avons lancé. Alors, il n'y a pas un grand soir des services express régionaux métropolitains. Moi, depuis 2016, d'abord à la métropole et puis maintenant à la région, j'ai en charge ces sujets. Nous avons commencé, nous avons multiplié les choses.
Les TER déjà,
oui, mais
c'est un gros sujet.
Les choses progressent. Nous avions 200...
Comment ça se passe chez vous si on va dans la Roque d'Anteron? Si je de la Roque d'Anteron, je veux venir travailler à Marseille, c'est facile, c'est simple.
Alors je vous réponds tout de suite et puis je reviendrai quand même sur les trains. Ici à la Roque d'Anteron, nous avons des lignes d'autocar qui circulent très régulièrement, soit vers Aix-en-Provence, soit vers Salon. Et lorsqu'on arrive à Aix ou à Salon, on prend soit des trains, soit d'autres lignes d'autocar pour aller sur le territoire.
Il n'y a pas un TER qui fait la Roque d'Anteron-Marseille?
Non, il y avait une vieille ligne dans le temps qui reliait, mais on était avant les années 60, qui reliait Lamanon à Mérargues, une ligne de train. Celle-ci a été fermée. D'ailleurs, à la place de la gare à la Roque d'Anteron, il y a maintenant une salle des fêtes et un gymnase, une salle de concert. Donc voilà, les choses ont évolué. Mais par l'autocar, on peut aller à la gare de Mérargues, on peut aller à la gare de Lamanon et prendre le train pour revenir. J'insiste bien, comme je le disais à l'instant, on a besoin de comprendre que pour laisser sa voiture, il faut accepter d'avoir des correspondances.
Bien sûr.
On n'aura pas partout des trains ou des autocars qui iront direct partout.
Évidemment, je pense que les gens sont tout comme à fait sur, conscients.
Comme on connaît bien le plan du métro, du RER et des autocars parisiens, hein, c'est basé sur le maillage, c'est ce qu'on est en train de faire. Et voilà, je voulais dire que sur les trains, et évidemment, c'est une très belle compétence de la région, sur laquelle le président Muselier et l'ensemble de notre exécutif mettons énormément de moyens.
Ah oui, c'est un sujet qui tient énormément à cœur à Renaud Muselier.
Exactement, je suis à la fois fier et honoré de servir les politiques impulsées par Renaud Muselier en la matière. Je rappelle que il y avait en 2021 520 trains quotidiens, il y en aura plus de 730 au milieu de l'année 2025. Nous multiplions les services, nous investissons très lourdement sur le réseau national de SNCF réseau, la ligne nouvelle Provence Côte d'Azur, les contrats de plan État de région, ce sont des centaines de millions d'euros que nous consacrons chaque année à cela. Nous investissons aussi sur une ligne, elle concerne moins ici à Aix-Marseille-Provence, mais qui est la ligne des chemins de fer de Provence entre Nice et Digne. Nous investissons. C'est jamais assez vite. Ouais. Parce que l'usager
c'est jamais assez vite.
C'est jamais assez vite.
C'est une véritable volonté.
Mais très objectivement, nous faisons des bilans régulièrement. Les choses progressent et en tout cas, moi, je n'ai qu'une ambition, c'est que ce soit les usagers qui le ressentent le plus rapidement possible.
Est-ce qu'il y a un projet pour tous ces transports, ce qu'on appellera donc les moyens de transport multimodaux, un projet autour de l'aéroport ? Parce que ça reste quand même si on n'a pas, il faut le dire, un aéroport international, c'est pas Nice. C'est Marseille, mais quand même, tout autour de cet aéroport, il serait temps que les choses soient plus fluides.
Bien évidemment, on est sur la métropole Aix-Marseille-Provence, la liaison entre l'aéroport, la ville de Marseille, la ville d'Aix-en-Provence, et sous l'autorité, sous la compétence de la métropole. Mais voilà un bon exemple de service express régional métropolitain. La région est aux côtés de la métropole. Nous avons une gare à Vitrolles, hein, la gare de TER de Vitrolles. Et la métropole est en train de développer une liaison. Alors, c'est une liaison avec un système de mobilité par câble, hein, télécabine, entre l'aéroport et la gare. Donc voilà un bon exemple de collaboration, de contribution collective entre la métropole et l'aéroport. Et puis vous parliez d'intermodalité. Tout ne reposera pas simplement sur cette association entre le TER et le transport par câble. On améliore avec la métropole les services d'autocars qui utilisent des voies dédiées sur les autoroutes. Ces services express régionaux métropolitains, c'est du train, c'est de l'autocar, c'est aussi du covoiturage. On voit bien que les choses évoluent. Le réseau routier, il va de plus en plus être adapté par les voies dédiées pour les autocars et par les voies dédiées par le covoiturage, finalement, à une utilisation de systèmes de mobilité, de transport collectif, plutôt que d'être tout seul dans sa voiture.
Absolument, et c'est important de rappeler, évidemment, ce travail que vous faites tout au long de l'année.
Et puis un mot sur l'aéroport, puisque j'ai la chance d'être au conseil de surveillance où je représente le conseil régional. Là aussi,
il y a les travaux bien avancés.
Bah, écoutez, voilà, soyons fiers.
C'est fait très bien.
On va avoir un cœur d'aéroport.
C'est pas tout à fait terminé encore.
Hein, vivement, tout ça sera terminé, évidemment, pour cet été.
Ça, c'est ce qu'on voit, parce que sur les pistes aussi, il y a des travaux. Hein.
Voilà, donc voilà, soyons fiers de ce qui est en train de se passer dans notre région. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les transports, les mobilités sont aujourd'hui un sujet vraiment majeur.
Comme vous dites, il faut le dire, et c'est vrai qu'on a un aéroport qui a il y a une certaine sérénité dans cet aéroport quand on y est, très différent des autres aéroports. Voilà. Et d'ailleurs, on adore cet aéroport de Marseille-Provence.
Et je tiens à féliciter toutes les équipes qui font ces travaux dans des conditions quand même...
Pas simple, parce qu'on n'a jamais fermé l'aéroport.
Parce qu'on continue à utiliser l'aéroport.
Et on a gardé un bâtiment qui est classé, c'est Castel, je crois.
Exactement.
Qui a fait ce très beau lieu.
Et je tiens aussi à remercier les usagers. On a eu plus de 10 millions de passagers cette année qui ont bien compris que pendant les travaux, le trafic continue. Et voilà.
Ça se passe plutôt bien.
Je trouve qu'on peut être plutôt fier de la façon dont ça se passe.
Ça se passe plutôt bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions, Jean-Pierre Sérus. Il y a de nombreux sujets qu'on pourrait aborder, mais on a fait politique nationale et politique locale. Ouais. À bientôt.
À bientôt. Et puis pourquoi pas à la Roque d'Anthéron. Vous savez, on a aussi beaucoup de projets. Je suis très attaché à cette double facette.
On fera une émission uniquement sur la Roque d'Anthéron. Merci beaucoup.
Écoutez, je vous en remercie d'avance. Bonne journée.
le journal politique de Radio JM.